Chapitre 2. La promesse. Du premier de l'an au dernier jour de février, le froid continua, dur au pauvre monde, mais bienvenu des fermiers, car il empêchait les blés d'automne de percer trop tôt la terre et, consolidant les routes, facilitait le transport des engrais. En revanche, il ne convenait pas aux santé délicates, et Bell Robson, dont l'état ne s'aggravait pas, voyait néanmoins sa journée sa guérison. Sylvia, bien qu'elle eût le secours d'une pauvre veuve du voisinage pour toutes les journées où un travail exceptionnel lui était imposé, se trouvait en face d'occupations très nombreuses. Mais si ses mains avaient fort à faire, son imagination demeurait libre. Et dans son existence, toujours calme, toujours monotone, rien ne l'empêchait de concentrer toutes ses pensées sur Charley Kinraid, ses façons d'agir, ses paroles, l'expression de ses traits, le droit qu'elle pouvait avoir de l'interpréter au gré de ses vœux, la durée probable du sentiment qu'elle lui avait inspiré, en supposant que cette interprétation ne fût pas chimérique. Philippe ne se doutait guère de tout ceci. Ses chiffres, ses vérifications l'occupaient tout entier. Les Foster, d'ailleurs, voulant présenter leurs successeurs aux divers négociants avec lesquels ces derniers allaient se trouver en rapport, emmenaient avec eux dans leurs fréquentes tournées l'un ou l'autre des deux jeunes commis. De temps en temps, il voyait Sylvia, qu'il trouvait invariablement douce, invariablement paisible, plus silencieuse peut-être qu'elle ne l'était l'année précédente, et ne prêtant pas la même attention à tout ce qui se passait autour d'elle. Un peu plus maigre aussi, un peu plus pâle, mais tout changement lui était favorable aux yeux de Philippe, pourvu qu'elle continuât à l'accueillir avec une certaine bonne grâce. Il la supposait inquiète de l'état de sa mère, ou du surcroît de besogne qui en résultait pour elle, et, sans qu'elle s'en aperçût, occupée qu'elle était de toute autre chose, il lui témoignait plus de respect, plus de déférence que jamais. Déférence et respect empreints d'une secrète tendresse. De son côté, Sylvia l'avait en meilleur gré que jamais, précisément parce qu'il lui épargnait ses assiduités passionnées qui, naguère, la tourmentaient si fort, bien qu'elle n'en comprît pas tout à fait le sens et la portée. Ainsi allaient les choses lorsque l'hiver cessa de sévir. C'était le moment qu'attendait avec impatience la pauvre malade à qui le médecin avait conseillé un changement d'air. Son mari devait l'emmener pour une quinzaine à 40 000 dans l'intérieur des terres, chez un de leurs anciens voisins. Et pendant leur absence, la veuve dont il a été question, dûment installée chez eux, tiendrait compagnie à Sylvia. Ce dernier arrangement était nécessaire pour que la jeune fille ne demeurât pas seule une grande partie du jour, même après le retour de son père, qui, sa femme une fois établie chez leurs amis, comptait bien rentrer sans délai. Car, à ce moment de l'année, le travail des champs réclame les soins les plus assidus. Une grande activité régnait aussi dans le port de Monkshaven. Les baleiniers achevaient leurs préparatifs de départ. Ils avaient devant eux ce qu'ils appellent un temps clos, c'est-à-dire une saison qui rend difficile aux navires de franchir la barrière de glace étendue entre eux et les Wollongrones. Encore fallait-il y arriver avant le mois de juin, sous peine de voir à peu près avorter la campagne. Aussi les forgerons battaient-ils le fer à grand bruit, transformant en harpons les fers les mieux éprouvés par l'usage. Les quais fourmillaient de marins à l'allure importante dont on se disputait les services, non seulement pour la pêche, mais pour la marine militaire. La guerre en consommait beaucoup, et on prévoyait que plus d'un capitaine, hors d'état de compléter son équipage à Monkshaven, aurait à pousser jusqu'aux îles Shetland. L'approvisionnement des navires, celui des matelots, donnait au mouvement commercial une activité extraordinaire, et on travaillait à force chez les Foster. Un soir que la boutique close, Esther et les deux futurs associés, passant la revue des marchandises, vérifiaient les articles du livre journal pour s'assurer que les ventes y étaient régulièrement portées. « À propos, Esther, » demanda Coulson tout à coup, « où est le paquet des madrasses supérieures ?»« On m'en demandait un, aujourd'hui, et je n'ai pu mettre la main dessus. » J'ai vendu le dernier, ce matin même à l'individu que vous appelez le Spictionnaire, ce marin qui s'est battu avec la Pressgrang le jour où fut tué le pauvre Darley. Il a pris aussi 3 mètres de ce ruban rose avec des croix noires et jaunes, que Philippe n'a jamais pu souffrir. Du reste, Philippe lui-même a inscrit l'article. « Est-il donc de retour ?» demanda ce dernier. « Je ne l'ai pas aperçu. Pourquoi revient-il ici où personne ne le désire ?»« J'aurais bien voulu le voir, » reprit Coulson. Il aurait eu de moi une parole et un regard dont il se serait souvenu longtemps. À propos de quoi ? S'écria Philippe, surpris de l'accent tout particulier que William donnait à cette espèce de menace, et en même temps satisfait de le voir entrer si bien dans les répugnances qui lui inspirait Kinraid. Le visage de Coulson était pâle de colère, mais pendant une minute ou deux, il sembla hésiter s'il répondrait ou non. « Propos de quoi ? » répéta-t-il enfin. « Vous allez le savoir. Pendant plus de 2 ans, ce monsieur a fait la cour à ma sœur, la meilleure fille et la plus jolie, à mon gré, qui ait jamais mangé le pain du bon Dieu. Mon drôle, ensuite, rencontre une autre personne qui lui plaît davantage. » William ici faillit étouffer dans l'effort qu'il faisait pour contenir l'expression de sa violente colère, puis il continua, un peu remis. « Avec celle-ci, m'a-t-on dit, il a joué le même jeu. »« Et ta sœur ?» demanda Philippe avec une avide curiosité. « Ma sœur est morte au bout de 6 mois, » dit William. « Elle est morte en lui pardonnant, et je devrais lui pardonner aussi, mais cela est au-dessus de mes forces. Tenez, ne parlons plus de lui, car son nom seul réveille en moi le vieil Adam et me ferait sortir de mon caractère. » Philippe, par égard pour son camarade, ne lui posa plus aucune question, bien qu'il eût encore voulu connaître maintes et maintes détails de cette romanesque aventure. Coulson et lui achevèrent leur travail de la journée d'un air sombre et sans échanger une seule parole, indépendamment de l'intérêt personnel que l'un ou l'autre, ou tous deux, avaient eu ou pouvaient avoir encore dans les triomphes du séduisant marin. Le genre de faute qu'on lui reprochait n'était pas de celle que trouvaient pardonnable ces deux graves et tranquilles jeunes gens. Quels que pussent être leurs autres défauts, ils avaient le cœur sincère et fidèle, et ce n'est pas d'hier que les péchés les moins excusables à nos yeux sont ceux auxquels nous ne nous sentons pas entraînés. Si l'heure avancée l'eût permis, Philippe aurait tenté de partir immédiatement pour aller auprès de Sylvia, suppléer à l'absence de Belle Robson, ou tout au moins la mettre sur ses gardes par quelque salutaire avis. Mais il était déjà trop tard. Une pareille démarche, s'il l'eût faite, aurait complètement avorté. Kinraid, en effet, ses emplettes une fois terminées, était immédiatement parti pour Hatterbank. Il n'était venu passer qu'une soirée à Monkshaven, et cela dans le seul but de revoir Sylvia, une fois encore, avant d'aller prendre possession de son emploi sur l'Urania, navire baleinier qui devait quitter le port de Northshield dans la matinée du mardi, c'est-à-dire le lendemain même. Sylvia était assise, tournant le dos à la fenêtre afin de mettre à profit, pour son travail de couture, les dernières lueurs du jour. Dans l'arrière-cuisine, Dolly Redd, la veuve chargée d'assister Sylvia pendant l'absence de sa mère, chantait une lugubre complainte fort bien assortie à sa triste condition, tout en nettoyant la batterie de cuisine. Le bruit qui se faisait ainsi empêcha sans doute la jeune fille d'entendre les pas d'un marcheur agile qui descendait lestement la colline. Toujours est-il que son apparition subite la fit tressaillir, et peut-être parce qu'elle pensait à lui. Elle le craignait, elle avait peur d'elle-même, elle voulait lui dérober ses plus secrètes pensées, et c'est pour cela sans doute qu'elle lui fit d'abord un si froid accueil. Tandis qu'il était là, debout devant elle avec un air de doute et d'hésitation qui aurait certainement plu à Sylvia, si elle eut le sang-froid nécessaire pour s'en rendre compte, elle n'avançait pas à sa rencontre, et rougissant, jusqu'à la racine des cheveux, pouvait à peine se soutenir sur ses jambes, prises d'un tremblement involontaire. Grâce à l'obscurité crépusculaire, Kinraid ne voyait rien de tout cela. Les paroles de la jeune fille n'exprimèrent aucune de ses sensations, ne firent allusion à aucun de ses souvenirs qui venaient en foule assiéger sa pensée. « Je ne m'attendais pas à vous voir, » lui dit-elle simplement. « Je vous croyais parti. » « Ne vous avais-je pas annoncé que je reviendrais ?» répondit-il, toujours debout, le chapeau à la main, attendant qu'elle lui demandât de s'asseoir. Elle oubliait pourtant, dans sa timidité, cette politesse de rigueur, et concentrait en apparence toute son attention sur l'ouvrage qu'elle tenait à la main. Cette immobilité, ce silence, ne pouvait cependant se prolonger. Elle se sentait sous un regard attentif au moindre de ses gestes, et son trouble, sa confusion, s'en augmentait d'autant. Lui-même s'étonnait d'être ainsi reçu, et ne savait trop comment interpréter un changement pareil, auquel ne le préparaient guère les souvenirs de leur dernière entrevue. Fort heureusement pour lui, en étendant la main sur la table pour prendre une paire de ciseaux, elle accrocha le bord de son panier à ouvrage qui roula par terre avec tout ce qu'il renfermait. Elle se baissa pour ramasser les pelletons épars, il fit de même tout naturellement, et quand ils se relevèrent, il avait dans sa main la main de la jeune fille, qui, se détournant à demi, semblait prête à fondre en larmes. « Pourquoi m'en voulez-vous » disait-il d'un ton suppliant. « Aviez-vous réellement oublié ? Je croyais, pourtant, que nous nous étions promis de garder bon souvenir l'un de l'autre. » Pas de réponse. Il continua. Je n'ai cessé de penser à vous, Sylvia Robson, et je ne suis revenu à Monkshaven que pour vous revoir une fois avant de m'en aller dans ces mers lointaines. Il n'y a pas 2 heures que je suis débarqué. Je n'ai pris le temps de voir aucun de mes amis, aucun de mes parents, et maintenant que me voici, on dirait que vous avez peur de me parler.
Je ne sais vraiment que vous dire, répondit-elle d'une voix qu'on entendait à peine.
Puis, faisant effort pour l'entretenir de choses indifférentes, elle ajouta, non sans avoir dégagé sa main.
Ma mère est en visite du côté de Middleham. Mon père est au labourage avec Esther. Il ne sera pas longtemps à rentrer.
Charley, pendant une minute ou deux, n'ouvrit pas la bouche. Il reprit ensuite. Vous ne pensez pas, j'imagine, que j'ai fait tout ce chemin pour voir votre père ou votre mère. Je les respecte tous les deux infiniment, mais ce n'est pas pour leurs beaux yeux que je me suis mis dans le cas de revenir à Shields sur mes jambes, et je n'ai pas d'autre moyen de m'y trouver mercredi soir à heure fixe, ainsi que je m'y suis engagé. Si vous ne me comprenez pas, Sylvia, est-ce faute de le pouvoir ou faute de le vouloir ? En la questionnant ainsi, le jeune marin n'avait fait aucun effort pour lui reprendre la main. Elle continuait à garder le silence, mais en dépit d'elle-même, sa respiration oppressée et pénible trahissait une vive émotion.
« Cela étant, reprit-il, je ferai aussi bien de retourner d'où je viens. Mais ce n'est pas ce que je croyais. Je comptais m'embarquer avec une bonne espérance dans le cœur, certain de laisser derrière moi quelqu'un qui m'aimerait bien, qui m'aimerait moitié autant que je l'aime. Et cela me suffirait. Mais si j'ai affaire à une personne sans cœur et qui méprise l'honnête affection d'un marin, autant en vaut que je m'en aille. »
Il fit à ces mots quelques pas vers la porte. Un indice quelconque l'avait sans doute averti, sans quoi il n'aurait jamais essayé de mater ainsi l'orgueil de la jeune fille. Il n'aurait jamais osé la réduire à la nécessité de parler la première. Mais à peine s'éloignait-il que, se tournant vivement de son côté, Sylvia prononça quelques mots dont le bruit seul, et non le sens, arriva jusqu'à ses oreilles.
« J'ignorais, disait-elle, que vous eussiez fait attention à moi. Jamais que je sache, vous ne m'en avez parlé. »
L'instant d'après, il était à côté d'elle, et, après une courte résistance, entourait de son bras la frêle taille de la jeune fille.
« Vous ne saviez pas que je vous aimais, Sylvia.
Répétez-le si vous le pouvez, en me regardant bien en face.
Dès l'hiver dernier, j'avais prévu que vous deviendrez la plus belle fille du pays. Cette année, en vous regardant tapis derrière mon oncle, abrité contre tous les regards, je me suis juré que vous seriez ma femme, ou que je ne me marierais jamais. » Vous n'avez pas été longtemps à le deviner. Pourquoi sans cela tant de timidité, tant de réserve? Et maintenant, vous avez le front. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Allons, enfant, qu'avez-vous?
Car elle pleurait. Et quand il la força de tourner vers lui son visage humide et pourpre, elle le cacha tout à coup dans la poitrine sur laquelle il l'étreignait. Il se mit alors à la bercer dans ses bras avec de douces paroles, comme une mère qui console son enfant affligé. Puis ils s'assirent sur le même banc côte à côte. Et quand elle fut un peu remise, leur entretien recommença. Il s'informa de sa mère, nullement fâché, au fond du cœur que Belle Robson se trouvait absente. Effectivement, il avait bien projeté, si cela était absolument nécessaire, de faire connaître ses intentions aux parents de Sylvia. Mais, par différents motifs, il ne lui déplaisait pas que les circonstances lui eussent permis de rencontrer seule cette dernière et d'obtenir qu'elle lui promît de l'épouser, sans avoir pour le moment à en instruire le père et la mère de sa fiancée.
« Je n'ai pas beaucoup ménagé mon argent, disait-il, et présentement je n'ai pas un penny devant moi. Vos parents doivent désirer mieux pour vous, ma charmante. Mais au retour de ce voyage, je réclamerai ma part dans l'Urania, et peut-être alors serai-je contremaître en même temps que harponneur. Ceci me vaudrait de 70 à 90 livres par voyage, sans compter une demi-guinée pour chaque baleine que j'aurai blessée, et 6 shillings sur chaque gallon d'huile. Si je ne change pas de patron, je suis sûr en outre avec le temps de commander un navire, car j'ai toutes les connaissances nécessaires pour cela. En ce cas, pendant chaque voyage, vous demeurerez avec vos parents, ou bien dans quelque cottage que je louerai pour vous auprès de leur ferme. Mais je voudrais avoir quelque avance, et j'en serai là, s'il plaît à Dieu, quand nous reviendrons à l'automne prochain. Maintenant que j'ai votre parole, je m'en irai bien heureux courir les mers. Vous ne vous en dédirez pas, j'en suis sûr. et j'ai bien besoin de penser ainsi, car d'ici là, je n'aurai guère chance de vous écrire pour vous rappeler que je vous aime et vous prier de ne pas m'oublier.
« Ce serait bien inutile, » murmura Sylvia.
Elle était trop étourdie de son bonheur pour faire grande attention aux calculs de fortune qu'il venait de lui détailler ainsi. Mais son cœur était attentif à la moindre parole d'amour.
« Qu'en sait-on ? » dit-il pour obtenir d'elle un aveu plus explicite encore.
« Bien des gens viendront rôder autour de vous. Votre mère ne m'aime pas outre mesure. Et vous avez un grand diable de cousin qui me fait la mine. Ou je me trompe fort, ou lui-même a quelque idée de vous plaire.
« Allons donc, » répliqua Sylvia d'un ton légèrement dédaigneux. « Il ne pense qu'à ses affaires et à son magasin. Devenir riche est son unique souci. »
« À la bonne heure. Mais une fois riche, il viendra peut-être demander la main de ma Sylvia. S'il en est ainsi, que répondra-t-elle »«
Jamais il ne s'avisera d'une pareille sottise, » dit-elle avec un peu d'impatience. « Il sait trop bien ce qu'il aurait pour sa peine. »
Puis, comme ennuyée de traiter un sujet auquel elle n'accorda aucune importance, elle lui adressa 1000 questions coup sur coup et lui répondait à la façon des amoureux, c'est-à-dire avec beaucoup plus de tendres manifestations que d'éclaircissements bien positifs. Dolly Red entra et sortit aussitôt sur la pointe des pieds sans qu'ils l'eussent aperçue. Mais Sylvia, l'oreille au guet, reconnut la voix de son père qui rentrait en compagnie de Kester, et aussitôt, prise de peur, elle remonta chez elle en courant, sans s'inquiéter des excuses que Kinred aurait à trouver pour expliquer tant bien que mal sa présence dans la cuisine déserte. Il n'eut pas besoin de longues justifications, et le cordial accueil du vieillard, aussitôt que celui-ci l'eut reconnu dans l'obscurité, modifia immédiatement l'idée qu'il avait eue de cacher ce qui venait de se passer entre lui et Sylvia.
« J'ai quelque chose à vous annoncer, » lui dit-il d'une voix hésitante et si peu d'accord avec ses manières habituelles que Daniel lui prêta immédiatement grande attention. Peut-être, en somme, le vieillard ne fut-il pas pris à court par la communication qui suivit, et dans tous les cas, elle ne fut point malvenue. Il aimait Kinred, non seulement pour ce qu'il savait du jeune marin, mais à cause de son métier même, qui de tout temps lui avait été sympathique. Aussi l'écouta-t-il sans l'interrompre, avec des mouvements de tête et de gestes approbatifs. Puis, quand tout fut dit, il mit sa main calleuse dans celle de Kinred, comme s'il se fût agi d'un marché conclu. Au fond, certaines grimaces ironiques l'attestaient assez. Le vieillard n'était pas fâché d'avoir ainsi réglé le sort de leur fille unique pendant que sa femme n'était pas là.
« Je ne suis pas bien sûr, » disait-il, « que ceci convienne à la femme d'Océan, sans trop savoir néanmoins ce qu'elle y pourrait objecter. Quoi qu'il en soit, je suis le maître ici, et je me figure qu'elle s'en doute. Mais peut-être vaudra-t-il mieux pour le repos de tous, bien qu'elle n'aime pas à gronder, je lui rends cette justice, garder entre nous ce petit secret jusqu'à l'époque de ton retour. La petite fille de là-haut ne demandera pas mieux, j'en réponds, mais peut-être la voudrais-tu voir. Les vieux comme moi ne sont pas d'aussi bonne compagnie qu'une fillette ainsi tournée. »
Riant alors de cette saillie qu'il croyait très heureuse, Daniel, du bas des degrés, appela sa fille plusieurs fois de suite. D'abord, il n'obtint aucune réponse, puis les verrous furent tirés, et Sylvia, sans se montrer, déclara qu'elle ne pouvait descendre, qu'elle ne descendrait pas de la soirée. Ceci fit beaucoup rire son père, et d'autant mieux qu'il lisait un désappointement plus complet sur la figure de Charley.
« Entends-tu, » disait-il, « entends-tu comme elle se barricade. Nous ne la verrons pas, tu peux y compter. C'est une fille unique, et partant un peu gâtée. Je t'offre, en revanche, une pipe bien garnie et un verre de grog. Selon moi, cela vaut pour passer le temps toutes les demoiselles du Yorkshire. »